Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 31e de la saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Bernard Archila.
Bonjour.
Vous êtes président du Racing Club Narbonne Méditerranée depuis une année ou presque, et après une année d'ailleurs à rebondissement, bien entendu, il était important, et je pense que ça va passionner les supporters, d'avoir ici pour explication au pluriel le président du Racing. Le sommaire de cette 31e de Radio Barque, nous allons revenir un peu sur le théâtre de Narbonne, scène nationale, et ses problèmes financiers récurrents. Après quoi, nous parlerons des investitures macroniennes ou macronistes, tu choisiras l'adjectif qui te convient, Michel. Après M. Perea pour Narbonne, c'est M. Portarieux qui est l'actuel DIRCAP, directeur de cabinet de Jacques Bascou à l'Aglo. Dans une deuxième partie, un billet que tu avais intitulé, Michel, dans ton blog « Mort et résurrection de Jean-Claude Pérez », c'est l'ancien député et maire, alors maire de Carcassonne et député de l'Aude de la première circo, je crois,
c'est
si
ça.
Je ne me trompe pas.
C'est ça, oui.
Et nous terminerons, et tu enchaîneras là-dessus, parce que tu appelles également le grand oral de Paisnost.
Oui.
Mais le théâtre, pour commencer, qui a des difficultés financières récurrentes, avec un article qui est paru dans la presse cette semaine sur une amicale de Périac-Minervois qui dit sa désaffection et son mécontentement du théâtre.
Vrai.
Donc tout ça, finalement, tombait bien dans cette actualité.
Oui, et puis surtout, Jean-Claude, la lettre de M. Penet, qui est l'adjoint au maire de Narbonne, en charge de la culture, une lettre très sévère adressée au président du Grand Narbonne, le Grand Narbonne, gérant, comme tout le monde le sait maintenant, depuis que je le dis, le théâtre en question. Et donc M. Penet s'offusque effectivement que ce budget ne soit pas traité, et avec des allusions sur certains fonctionnements qui sembleraient, sinon opaques en tout cas, poser quelques problèmes.
Oui. Précisons tout de suite que M. Penet, en théorie, n'a rien à voir là-dedans.
Absolument rien à voir, sinon que, il est le théâtre est sur le territoire de la commune de Narbonne.
Oui, ça c'est clair. Il avait été fait par Hubert Mouly, ça c'est
exactement,
clair et net.
Exactement. Encore que, Jean-Claude, si M. Penet doit et devrait s'intéresser au théâtre en question, parce que autant sa lettre, je l'ai trouvée un peu cavalière, même si dans son rôle, il faut quand même rappeler à nos auditeurs que le parvis du théâtre, dont je n'ai cessé de dire ici, l'état désastreux dans lequel il était. L'année dernière, j'avais fait un billet d'ailleurs, parce que passant devant le parvis en question, il était recouvert d'herbe, comme certains d'ailleurs parvis que l'on peut trouver dans certains pays sous-développés. J'avais fait un billet qui d'ailleurs avait amené les services municipaux le lendemain à gratter à toute vitesse effectivement ces herbes folles.
L'herbe
qui
est partie, mais les marches détériorées restent.
Elles sont de compétences communales, donc j'adresse à M. Penet au passage, si tu me le permets, Jean-Claude, faites un petite lettre comme ça. M. Penet, dépêchez-vous effectivement de prendre en charge, comme vous devriez le faire depuis fort longtemps déjà, ce parvis, pour le mettre en état, de manière à ce que nos visiteurs qui viennent et qui entrent par cette entrée de ville superbe de Narbonne n'aient pas effectivement une vitrine particulièrement douteuse.
Voilà, si je puis risquer cette boutade, M. Penet, mettez-vous en marche pour la réparation des marches.
En quelque sorte, et contribuer effectivement à la valorisation de ce superbe outil qu'est le théâtre, et qui, il est vrai, a quelques difficultés financières. On y vient. Donc, alors le problème, du coup, c'est que là aussi, la presse, comme M. Penet dans sa lettre, fait état d'un déficit de 600 et quelques 680, je crois, de mémoire, ou 680 000 euros. Bon. Alors, donnons les chiffres précis à nos auditeurs. Le déficit de fonctionnement au sens strict du terme du théâtre, c'est en cumulé 45 000 euros seulement, si je puis dire, fonctionnement. Il faut rappeler aussi que les théâtres scène nationale est un label, scène nationale, nationale, qui impose des contraintes de gestion et de programmation précises faites à ces théâtres, en contrepartie d'une subvention de l'État. Et ces contraintes, ce sont notamment de mettre à la disposition, si je puis dire, du public, des productions culturelles, disons, d'un certain niveau, je ne vais pas entrer dans le détail. Et la norme nationale, à peu près respectée partout, c'est que, les recettes de billetterie, donc l'autofinancement de ces scènes, c'est à peu près 20% du budget. Eh bien, à Narbonne, on y est. 2 500 000 euros de recettes, à peu près 500 000 euros en moyenne de recettes de billetterie.
Donc on serait dans les normes.
Ce qui veut dire que, bon, voilà, tout le reste est financé comme cela a été prévu dès le départ quand ces théâtres ont été créés et labellisés par l'État, avec des contributions publiques relativement importantes. Mais cela dit, Jean-Claude, Narbonnier devrait savoir, s'il ne le savait pas encore, que quand un Parisien va s'asseoir au théâtre, à l'Opéra de la Bastille, il finance une partie du siège, parce que l'Opéra en question, il est structurellement déficitaire. Comme d'ailleurs l'orchestre de Montpellier. Quand je vais à Montpellier, ben je suis désolé de dire à mes auditeurs qu'une partie d'entre eux finance une partie de mon siège que j'occupe. Et donc, il me permet de le payer à un prix acceptable pour ma modeste bourse. Donc, on n'est pas là dans une aberration, juridico-financière. On est presque dans la norme qui caractérise ce type d'établissement culturel. Mmh. Premier point. Deuxième point, alors, pour comprendre le reste du déficit, c'est que... dans ces 680 000 euros, il y a le remboursement des apports qu'a fait le Grand Narbonne en 2014-2015 pour éviter le dépôt de bilan de ce théâtre. Ce qui est là aussi une gestion assez classique dans ce genre de situation. Plus 200 000 euros d'emprunts contractés par l'association pour, comment dirais-je, financer le départ négocié du précédent directeur. Bon. Voilà les deux faits qui constitue l'essentiel, le gros du déficit dit structurel de ce théâtre.
Voilà. Alors,
voilà, pour ramener les choses à leur véritable grandeur.
Il y a quand même une désaffection d'un certain public qui apparaît dans la presse de la semaine dernière à propos justement d'une amicale d'un village qui prend des places habituellement et qui indique clairement, c'est Périac-Minervois, qui indique clairement sa désaffection et son mécontentement.
C'est vrai, c'est une association de personnes âgées, de personnes à la retraite, disons.
C'est quand même caractéristique, qui achètent des places et qui tout d'un coup disent en acheter beaucoup moins.
Voilà, beaucoup moins, 30% de moins.
Parce que ces
personnes considèrent que la programmation qui leur est proposée, elle ne justifie pas le paiement d'un abonnement sur l'année à ce théâtre. Mais on en revient à ce que je disais précédemment. On est dans un théâtre labellisé scène nationale. Ce théâtre est obligé structurellement de proposer des spectacles qui, c'est vrai, objectivement, ne correspondent pas forcément à la moyenne des souhaits, de la population narbonnaise, compte tenu de sa sociologie très particulière.
Voilà, enfin, c'est pas du grand public pour dire
les choses simplement. Ce genre d'offre n'est pas là pour répondre à une demande spontanée du territoire circonscrit fait à la narbonnaise. Son ambition est beaucoup plus forte. C'est pour ça qu'entre autres, il y a des prestations du théâtre à destination du public comme les scolaires qui sont pas rentabilisées par nature, pour les initier à un certain type d'art très, pas forcément à la portée des enfants, théâtre contemporain, danse moderne, etc. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet, un sujet complexe et qui mériterait, c'est ce que je voulais dire, à travers cette chronique, qu'on le traitât de manière un peu plus objective, disons, et avec des arguments qui tiennent quand même compte de tous ces éléments de complexité qui ne sont pas forcément donnés dans la presse quand elle rapporte ce genre de choses.
Voilà. Alors un petit mot pour conclure cette première partie des Macroniens de Narbonne.
Investi des Macroniens, Péria a été investi.
C'est fait.
J'avais fait le pari qu'il le serait, tu t'en souviens, lors d'une chronique, car c'est vrai qu'il a le profil qui correspond à ce que En Marche pourrait capitaliser le plus sur une circonscription comme la nôtre, à savoir le volet gauche-centre-gauche.
Puis lui s'était investi depuis longtemps.
Et il avait anticipé effectivement ce genre de décision correspondant au profil moyen qu'En Marche pouvait imaginer sur ce territoire-là. Et donc, il avait commencé sa campagne bien avant qu'il ait l'investiture. Donc, c'est fait. Par contre, là où c'était pas fait du tout, c'était pour Portarieux, le directeur de cabinet de Basse-Cour. Alors, je rappelle quand même que Péria est aussi le vice-président du Grand Narbonne, en charge de l'économie, ce qui n'est pas rien,
Du même Jacques Basse-Cour. Ça fait deux responsables du Grand Narbonne.
Du même Jacques Basse-Cour lui-même, je le rappelle, a démissionné du Parti Socialiste il y a quelques temps. Donc, son directeur de cabinet, lui n'a pas démissionné, c'est bien en congé parce qu'il a été retenu dans la dernière rafale des investitures pour candidater au nom du parti, pardon, du mouvement, ce n'est pas encore un parti, mais ça deviendra d'Emmanuel Macron, sur la 5e circonscription de la Haute-Garonne. Une circonscription d'ailleurs qui est gagnable par lui, puisque par En Marche, parce que la députée sortante qui était socialiste, hein, n'avait pas donné son mandat pour Benoît Hamon, s'était mis en retrait du Parti socialiste et, si je suis bien informé, va quasiment faire campagne pour Monsieur Portarieux, voilà. Qui, s'il gagnait, bon, libérerait un poste de directeur de cabinet, ce qui, partout, bon, serait un peu dommage pour Basco, qui l'a recruté il y a très peu de temps.
Voilà, et on marque une première pause.